Les archives du continent, Philippe Garbi, Véronique Villa. Cette semaine, l'Europe. Bonjour. Les archives du continent nous ont promenés cette semaine en Europe et dans le passé de l'Europe. Berlin, l'Italie, l'Espagne du début des années 50, la Place Rouge et la vie à Moscou sous la perestroïka, les docks de Londres du temps de Miss Thatcher. Aujourd'hui, deux îles de la Baltique sont au programme, Gotland et Feureux. L'émission de Patrick Casal, réalisée par Lionel Quentin, diffusée dans L'usage du monde de Marie-Hélène Freissé, date de décembre 1997, mais on peut raisonnablement penser que depuis lors, rien n'a changé, mis à part la mort de Bergman.
Je venais de trouver mon paysage, ma véritable demeure. Si on veut être drôle, pourquoi ne pas parler de coup de foudre? En lisant ces lignes, voici 10 ans dans L'Aterna Magica, le livre de mémoire d'Ingmar Bergman, je m'étais juré de prendre un jour le bac pour Foreux, ce lieu de solitude de la Baltique, à 1 kilomètre au large de Gotland, l'île sacrée de Gjelvar, le héros nordique et mythique qui sut y maîtriser le feu. Bergman a choisi de vivre et de filmer là, au naturel, dès les années 60, sur cet ancien repère de chasseurs de phoques et de vikings, pour capter au plus près la lumière, le silence et les névroses du monde. En septembre 84, Andrei Tarkovsky fit le même choix, tourner à Gotland son dernier film, Le Sacrifice, face aux lueurs mauves de la Baltique, sous les cris des mouettes et des harles. Sur Gotland est foreux. Une semaine avant la Saint-Jean, la nature explose et les journées s'étirent au grand soleil. Sur la carte, à 20 km de Visby, la cité des roses et des remparts, carrefour obligé, le nom d'un bourg m'intrigue. Roma. Un elfe de Gotland se dévoue pour me guider jusqu'aux ruines d'un monastère cistercien. L'autre ville éternelle fait plutôt pâle figure. Mais le baroque est bien au rendez-vous. Un ferronnier d'art s'échine à forger des diablotins ithyphaliques. Et à l'ombre de grands chênes, un théâtre de chambre défriche Shakespeare pour le prochain été.
För narrens enfall är alltid förnuftets slipsten.
Gunilla Forsen, de cette terrasse, tout près du centre balte, du centre des écrivains et du centre de traduction, non, balte, on découvre un horizon qui est chargé de tas de choses. Alors vous pouvez nous dire un petit peu ce que l'on a sous les yeux là? D'abord cette imposante cathédrale.
Oui, qui est d'origine, qui était, au début, c'était bien sûr catholique. C'était parce que Visby était à l'époque une ville de Hansa. Visby a un caractère toujours, je pense, assez clair, allemand. Et bien sûr, nous avons la mer, tout cet horizon, tout à fait, qui est seulement coupé par quelques arbres.
Alors ça, c'est la Baltique.
Oui,
donc c'est une mer qui vous intéresse vraiment au premier chef, parce que la Baltique, pour vous, c'est une unité. Humaine et une unité littéraire aussi.
Oui, sans doute. Et maintenant, si on regarde quelques années en arrière, la Baltique était coupée et on ne savait rien sur ce qui se passe derrière la frontière. Et tout d'un coup, on a découvert qu'on a existe des peuples, des cultures, des langues, des gens qui ont des pays. De nouveau, on a eu des voisins tout d'un coup. Et bien sûr, ce centre et beaucoup des activités qui se passent sur cette île maintenant, justement à ce but de découvrir ce qui se passe et ce qui s'est passé de l'autre côté.
De rétablir des contacts qui s'étaient un petit peu distendus.
Hein, oui, bien sûr. Pendant 50 années, c'était tout à fait bon, c'était la silence. Mmh. Et le monde s'est terminé ici. Mais depuis, l'âge des Vikings, peut-être même avant, et toujours, on a eu des contacts culturels avec les pays autour de la mer Baltique. Et maintenant, nous voulons rétablir ces contacts.
Est-ce que des écrivains baltes sont tombés amoureux de Gotland ?
Oui, mais ils sont, je crois que dans les pays comme Estonie, Lettonie, Lituanie, par exemple, parce que Gotland, c'est très proche. Si on est oiseau, c'est plus rapide d'aller à Riga que d'aller à Stockholm. Et bien sûr, pendant la guerre aussi, pendant cette période soviétique, ils ont toujours essayé, rêvé de venir ici. Donc ça, parce que ça existe, ils connaissent depuis toujours que ça existe et ils savent beaucoup de choses sur Gotland. Et beaucoup de choses en commun comme ça. Et pour eux, je crois que tout ça, c'est beaucoup plus connu que pour nous, leur pays. Donc, quand nous allons chez eux, je crois que ça, c'est la vraie découverte. Parce que nous avons oublié beaucoup de choses.
C'est une grande maison calme sur les hauteurs de Visby, aux pierres chaudes et à la pelouse vert tendre d'un presbytère. Écrivains et traducteurs ayant la mer Baltique au cœur peuvent y trouver refuge et s'immerger dans l'écriture. À l'heure du premier thé, du lait caillé, du hareng fumé, savouré en commun dans la cuisine, on échange en cinq langues ses angoisses et ses trouvailles de la nuit. Je regarde ces visages de femmes lettones, estoniennes, russes et finlandaises, croquant leur toast avec lenteur, toutes saisies par la ferveur des mots. Gunilla Forsen, le cheveu court, gamme écureuil, et les lunettes cerclées d'écailles, les écoute, s'étonne, sourit, conseille avec une infinie douceur. Elle offre ici les denrées rares de l'écriture, le silence et le temps. Alors comment se passe la Saint-Jean ici? C'est une grande fête, la Saint-Jean pour Gotland.
Oui, bon, c'est une grande fête partout dans les pays scandinaves, un peu comme ça, avec beaucoup d'angoisse, je pense, parce que c'est tout cette lumière. Oui, je pense, comme toutes les grandes fêtes, pour beaucoup de monde, parce que... Et puis c'est la lumière aussi qui... Moi, je peux dire franchement que cette année, je sens... Une angoisse, parce que tout ça vient, revient si vite. Mm-hmm. Et la lumière et tout ça, et puis déjà on pense que bientôt ça sera fini, et puis ça vient, revient le long hiver. C'est une sorte de mélancolie qui est très fort, un élément de mélancolie qui est très présent, je crois, pour quand nous...
Mais ce besoin de lumière, donc, pendant l'hiver, il y a des moments où vous le sentez vraiment terriblement.
Oui. On essaie d'éteindre des petites bougies, etc. Les maisons sont pleines de lumière, mais ça ne suffit pas. Non.
Et là, il y en a trop.
Oui,
maintenant, il y en a trop.
Il y en a
trop. Les nuits sont tellement... Oui. Il n'y a pas de nuit, pratiquement.
Non.
Hein?
Non.
Il y a trop de lumière.
Oui.
Et après, vous allez manquer de lumière.
Oui. C'est un sentiment quand vient l'automne, etc. Ça, on a le sentiment que c'est comme de passer par un tunnel. Mm-hmm. Puis à la fin, on commence à voir les premières lumières. Et puis tout d'un coup, c'est comme ça. Et c'est maintenant où nous sommes maintenant. Juste après d'avoir sorti de ce tunnel qui est notre hiver.
var verkligen en
lycktrevlig.
Jo, tack detsamma. Jo, hej. Jo, hej, hej.
Du bor i Vasa?
Jag bor i Vasa, ja. Sen nästan 40 år.
Ja, jag vet att jag hörde sådär. Jag ser lite där nu för tiden.
Ja. Jo, det var det. Hej, hej.
Nu
ser vi bara ett barn. Sätter vi fram till Mokonej, det blir... Det är från land, Kiev, passé, kisavé, kanske vi är där, men så... Bon, ça c'est la maison. Et le petit jardin. Ici, c'est pour le hérisson. Ça, c'est son passage.
Le passage du hérisson.
Oui, ici.
Alors, à quelle heure arrive-t-il?
9h30.
Et alors, son circuit?
Oui, comme ça. Et puis, oui. Il sent comme ça. Il ne voit pas bien. Mm-hmm. Et je ne sais pas avec si il entend bien ou non, mais je ne crois pas trop bien. Donc, c'est avec le nez qu'il se dirige. Et pour savoir s'il y a quelque chose, je lui laisse du fromage.
Oui.
Ou il aime beaucoup la glace. Il aime la glace. Le vanille. Il aime beaucoup ça. Et donc
ça, c'est le premier hérisson. Et puis alors, les deux autres.
Bon, il vient après, oui, et parfois ils font ici l'amour pendant des heures et des heures et des heures. Ça devient un peu monotone pour un spectateur.
Alors donc là, c'est votre jardinier.
Oui, oui.
Et c'est entouré, c'est un jardin complètement clos, tout est en bois pratiquement ici. Oui. Ces maisons sont en bois. Votre maison est en bois. Enfin, il y a des tuiles.
Oui.
Il n'y a pas de bardeaux de bois qui couvrent le toit.
Même ça, c'est en bois. Comment on appelle ça pour l'eau qui prend
les gouttières.
L'eau.
Les gouttières sont en bois.
Vous voyez, oui.
Mais c'est une maison traditionnelle donc de Gotland.
Oui, oui. Pour les, je crois qu'ici, ça a été une maison pas pour la noblesse, mm-hmm. comme vous voyez. C'est une petite maison, donc ici, c'était pour celui qui répare les chaussures, pour les gens de la mer, qui, etc. Des gens comme ça, comment on dit, qui travaillent avec leurs mains.
Oui, un manuel.
Un artisan.
Un cordonnier.
Oui.
Un cordonnier.
Oui, oui. Mais je sens que c'est ça. un peu. Et on peut s'imaginer comment on a vécu ici pendant des siècles quand même. Je sens, chaque fois que j'ouvre la porte à ma cour, je sens aussi une grande harmonie et je sens ça que c'est le temps comme ça qui...
Alors Gunilla, ces hérissons, on les a trouvés, on peut les trouver dans les... dans les tombes.
Oui, on a trouvé, découvert plusieurs tombes avec des restes, des traces d'hérissons. Donc, on sait que l'hérisson avait une certaine importance de culte, mais on ne sait pas comment. Seulement, je pense, parce qu'on voit maintenant, si vous promenez le soir à Visby, vous allez rencontrer plusieurs hérissons le soir. Mais je pense que quand on les voit, comment ils bougent, etc., ils sont quelque chose... vraiment de très ancien en soi.
Chaque clairière et chaque crique de Gotland ouvre sur un mystère. Des tombeaux aux pierres dressées en forme de navire, la proue pointée vers la mer, des huttes et des chapelles de pêcheurs, des fermes en tourbe de l'âge de fer pétrifiées par le temps, des brebis noires, grises et cornues. Assise à l'ombre des murailles donnant sur Almedalen, l'ancien port, Malin Lindquist, énergique, ronde et savante, m'offre ses clés pour l'histoire de l'île. Elle me parle musée, mais me chuchote aussi l'essentiel. Me laisser porter par un troll chanteur vers un bois hanté par des chevaux sauvages. Partir à la tombée du jour, écouter un chœur de pharmaciens et de notaires chanter Bach dans une église de campagne, humer les odeurs de chanvre et de saumure d'une boutique en céatique, déchiffrer à la pile électrique, sur un chemin boueux, les motifs d'une pierre runique.
Oui, l'organisation de la ville, c'était une ville hanséatique. Et maintenant, nous nous retrouvons au centre de l'ancien port, qui est aussi ce qui était le centre de la ville. Et la ville hanséatique, vous voyez les grandes maisons blanches de calcaire, qui étaient à cette époque-là, c'est-à-dire au Moyen Âge, 13e siècle, une des plus grandes villes dans cet endroit. Une ville avec des grandes maisons qui appartenaient aux commerçants, parce que Visby est devenu le centre de commerce dans la mer Baltique. Et ces grandes maisons étaient pour garder les marchandises. Les gens pouvaient se sauver, ils habitaient dans les petites maisons en bois qui n'existent plus naturellement. Et la ville a commencé à grandir à la fin de l'âge de Viking. Et comme ça, on peut aussi dire que les grandes époques de la ville, de la commerce, c'était le 13e et le 14e siècle. Et puis après ça, le 1361, il y a le roi danois qui est venu ici, qui a attaqué la ville, la Grande Guerre.
Il s'en est emparé.
Oui. Et puis après, 2000 personnes sont tombé ici, surtout les Gotlandais. Et comme l'histoire aussi dit, que les gens et les commerçants étaient autour de la muraille pour regarder cette grande bataille. Et puis après ça, on a ouvert les portes et puis laissé les Danois. Mais après cette histoire, et aussi avec les maladies et tout ça, Visby a perdu cette grandeur. Mais il y avait une époque avant le Moyen Âge. Et toute cette époque depuis l'âge de pierre. On voit des traits de l'homme depuis 10 000 avant Jésus-Christ. Et puis qu'on avait des sites préhistoriques, on connaît 35 000 tombes, sites, n'importe quoi de cette époque-là. Et bien sûr, c'est très, très intéressant. On a par exemple les grandes tombes de l'âge de bronze. On a des problèmes avec les Romains qu'on sait. On croit que les Romains, on n'a pas jamais été ici, mais peut-être il y avait un bateau romain parce qu'on trouve des choses romaines ici qu'on peut montrer au musée. Et à part de ça, bien sûr, on a 92 églises médiévales.
Ces étonnantes pierres sculptées que l'on trouve donc à l'entrée du musée, là, vous pouvez nous raconter un peu l'histoire de ça, parce que ça, ce ne sont pas du tout les rocards comme on peut trouver à Fleureux, mais ce sont des pierres qui, où il y a des signes donc, de la présence humaine.
Ce sont des pierres sculptées, comme vous avez dit, qui est très typique pour Gotland, qui n'existe pas d'ailleurs. On ne trouve pas en Suède, on ne trouve pas ailleurs. Il se date d'une époque juste avant l'âge de Viking, 8e siècle. Pour nous, l'âge de Viking commence à 9e siècle. Mm-hmm. Et ces grandes images que vous pouvez voir sur ces pierres, ça peut être par exemple les grandes roues, ce sont les symboles du soleil. Mais oui, quelques-uns racontent des histoires des Vikings qui sont partis pour des expéditions. On sait même que les Vikings, probablement les Vikings gotlandais, qui étaient déjà jusqu'au Istanbul, c'est Miklagård pour les Vikings. Alors c'est ça que ces pierres racontent.
Alors il y a une autre tradition donc à Gotland, ce sont les trésors que l'on peut découvrir. Ils existent vraiment ?
On en trouve vraiment. Toujours ? Bien sûr, il y a seulement 2 semaines qu'on a trouvé un. 2,5 kilos de l'argent. On connaît à peu près 90 trésors. Seulement.
On en a trouvé 90.
Oui, depuis des années. Hein. Oui. L'histoire très simple, c'est les Vikings qui sont allés là-bas, vers la Russie, vers Istanbul et ces endroits-là, ils ont vendu des différentes choses. Ils ont gagné beaucoup d'argent et cet argent, c'est comme monnaie ou comme argent, comme ça, quoi. Ils ont rentré avec sa fortune. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas une banque? On le creuse et puis on le cache dans la maison auprès où on habite. Mais le grand problème, c'est pourquoi est-ce qu'il reste encore là? Pourquoi est-ce qu'on n'a jamais rentrer touché pour les trésor, non, on a trouvé, on ne sait pas, hein. C'est ça qui est le problème. Et chaque année, c'est vraiment vrai. Alors chaque année, on trouve un trésor. Ça, c'est vrai. Normalement, ce sont des paysans. Mm-hmm. En travaillant, hein, ils voient quelque chose ils connaissent, parce que les Gotlandais connaissent leur histoire. Ils sont très fiers. Mm-hmm. Normalement, les lois suédoises disent qu'il faut le donner à l'État et l'État vous paye. Paye bien aussi. Mm-hmm. Mais bien sûr, comme j'ai dit, les Gotlandais sont très fiers de leur histoire, leur préhistoire. Ils gardent peut-être, on sait que ça existe dans les fermes, mais nous ne disons rien parce que pour eux, c'est une question de... Ils pensent que ça appartient aux fermes. Et normalement, ici, ça c'est quelque chose aussi très intéressant avec les Gotlandais. Normalement, depuis l'histoire, on n'a eu que 2 enfants. Une fille qu'on pourrait toujours marier quelque part, et le fils... pour les fermes. Comme ça, on peut suivre les propriétaires des fermes très très loin, depuis jusqu'à 15e siècle. Alors comme ça, ils pensent, mais c'est nos ancêtres qui ont caché cet trésor, alors ça appartient aux fermes.
Mais les Gotlandais sont plutôt des gens qui restent sur leur terre, ou donc ils ne sont pas. Pourtant, il y a une tradition quand même de voyage, de départ, mais ils sont très attachés à leur terre.
Oui, c'est comme vous avez dit, c'est une. Autrefois, on a beaucoup voyagé. Aujourd'hui, on reste. C'est une sorte de mentalité d'une île. Mm-hmm. On reste, et la jeunesse veut pas quitter la ville, c'est très loin, outre-mer, c'est loin. Mais maintenant, à cause du chômage et tout ça, surtout la jeunesse a compris qu'il faut quand même quitter pour quelques années, pour étudier. Mais normalement, on reste ici, on n'aime pas. La reste, on ne dit pas, c'est Gotland et le reste, c'est la Suède.
Och pappa vatten lägger ut nätet så får du se, jag har inte känt
mjölken. Jag tycker att David och Minas lägger ut nätet så får jag en promenad med min hustru.
Kan inte Karin och jag lägga ut nätet så får du se.
Fait du bruit et joue l'idiot. Après un siège d'une heure, tremblante et rougissante de son audace, Elisabeth Edlund m'a enfin révélé le titre du nouveau film qu'Ingmar Bergman livrera cet automne, à 79 ans, après 15 ans de silence. Dans les locaux clairs et spacieux de Filmp Gotland, école de cinéma et agence de tournage de Lille, les silhouettes d'Elisabeth et de Madeleine, son alter ego, glissent d'une pièce à l'autre comme des vestales à l'heure du sacrifice. Il fallait à Gotland un lieu de culte pour le cinéma. Elles l'ont voulu au cœur de Visby. Des salles de montage à la bibliothèque, l'ombre du maître solitaire de Fårö est partout présente. Nous avons rassemblé sur les murs de cette grande salle des affiches d'anciens films de Bergman. Je vais vous confier un secret. J'ai apporté ces affiches du cinéma dont j'étais responsable avant de venir à Gotland. Ce sont vraiment des affiches volées. Je pensais que je devrais un jour les ramener à Gotland, puisque Gotland est, comme vous le savez, l'île où Bergman vit et travaille. Gotland est un endroit magique par sa lumière. Dans les interviews que nous avons réalisées avec Sven Nykvist, le chef opérateur de Bergman, il parle justement de cette lumière très particulière et mystique de l'île.
Non, Bergman n'est pas venu ici. Je voudrais vraiment qu'il vienne dans cette école. Mais il n'est pas venu parce que vous savez qu'il est très timide et qu'il n'aime guère les rencontres publiques. Comme vous le savez, Bergman est venu pour la première fois à Fårö au début des années 1960 pour faire son film À travers le miroir. Et il a continué à tourner des films ici pendant les années 60 et 70. Je pense que le premier documentaire qu'il ait réalisé sur Fårö date de 1969, Fårö Document. Il a fait ce film pour montrer son profond amour et son respect pour l'île et ses citoyens. Ce film est un